Bonjour, ça peut se dire en chanson, une émission sur la chanson française.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder aujourd'hui, pour ce troisième épisode de la cause féminine à travers la chanson, la condition féminine dans la première partie du XXe siècle. Condition féminine est un terme que je n'aime pas, mais c'est à dessein que j'emploie ici cette expression, parce qu'en cette première moitié du XXe siècle, où peu de choses ont évolué, on ne peut décemment pas parler de droits de la femme. Mais avant tout, nous allons commencer par une chanson qui retrace la lutte et le combat des femmes au XXe siècle à travers la vie de Vanina.
Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie, comme vous et moi, va, comme vous et moi, quand c'est fini, un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre, ou lentement, l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, la bien vécue va. Son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, à rien du tout. Premier Jaurès, premier amour, ambulancière de nuit, de jour, pour ne plus entendre là-bas le glas qui sonne. Les années 20 lui font l'humour d'une insolence à cheveux courts, le droit de vote est à deux pas de Charleston. Alors les 30 font la java pour la retourner comme un bas, mais elle choisit Colette et rit de Monterland. Ah, quand elle n'est pas au syndicat, Garbeau la trouble au cinéma pour faire une femme, évidemment c'est un peu lent. Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie comme vous et moi, va, comme vous et moi quand c'est fini un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, la bien vécue va, son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, à rien du tout. L'été 36 est populaire, mais un congé chez les Ibères brise son rêve et c'est la grève où vient s'échouer. Son désespoir de plein hiver quand l'an 40 se perd en guerre et qu'il faut bien que nage ou crève les bafoués. Alors en dépit des képis, la voilà qui passe au maquis sur son vélo, des lettres lentes de menaces. Jusqu'à ce jour de Normandie qui la débarque bien en vie sur le quai des années 50, le temps passe. Vanina s'en va, c'est pas grave, la bien vécue va, son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, rien du tout. Quinquagénaire à Saint-Germain, quand déchante les lendemains, parce que l'Empire français salope les droits de l'homme. Mais un printemps estudiantin la fait rejouir de son latin chez les salopes. À la Sorbonne, et c'est à l'art d'être grand-mère qu'elle ira frotter ses chimères chez les cathos pour être utile à quelque chose. Ah, la grande chose humanitaire qui la porte nanagénaire à croire encore aux justes causes. Vanina s'en va, Vanina s'en va de la vie comme vous et moi, va, comme vous et moi quand c'est fini un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre ou lentement l'un derrière l'autre, chacun regagne son néant. Vanina s'en va, Vanina s'en va, c'est pas grave, la bien vécue va, son grand siècle de bout en bout, de guerre en paix, de droite à gauche, debout.
C'était donc Vanina s'en va par Véronique Pestel, titre que l'on retrouve sur son excellent CD La parole de l'autre. Ambulancière de nuit de jour, pour ne plus entendre le glas qui sonne, rappelle cette chanson, soulignant ainsi le dévouement des femmes sur le front. Leur engagement, faut-il le rappeler, ne s'arrête pas là. Dans les campagnes par exemple, où la mobilisation générale de la guerre de 14-18 intervient en pleine période des moissons. Les Françaises vont alors devoir remplacer les hommes mobilisés. Elles assureront non seulement les récoltes, les vendanges, mais aussi la préparation de la saison suivante, et cela pendant 4 ans, voire plus pour celles dont le mari ne reviendra pas, ou reviendra, mais en trop mauvais état. On attend d'elles alors qu'elles nourrissent la France et surtout le front. Le monde de l'industrie, oubliant tous ses préjugés machistes, va faire appel aux femmes, surtout celles des milieux populaires, pour rejoindre les usines d'armement qui doivent alimenter la guerre. Ces ouvrières subissent des conditions de travail très éprouvantes et, en travaillant plus de 10 heures par jour, elles vont produire 200 millions d'obus durant toute la durée du conflit. Elles manipuleront ainsi chacune environ 4,5 tonnes de métal par jour, et ce, pendant toute la durée des combats. Une chanson écrite par deux hommes, Jules Maury et Vincent Scotto, va leur être consacrée. Et si les trois premiers couplets vantent les mérites de ces ouvrières, au quatrième couplet, les auteurs leur rappellent qu'après la guerre, quand on n'aura plus besoin d'elles, il faudra retourner à la maison. Quand la guerre sera finie, que nos poilus reviendront, notre tâche accomplie, à la gare nous irons. Nous leur dirons plein de fierté, on va reprendre notre vie, reprends ta place à l'atelier, nous, les femmes, on retourne au foyer pour te choyer. C'est effectivement ce que leur rappellent ces deux auteurs dans le dernier couplet. Les tourneuses d'obus est interprétée ici par la soprano Françoise Massé, accompagnée au piano par Anne Le Bozec. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les élections de 1919 donnent la victoire au Bloc national, rassemblement des forces conservatrices, qui se trouve avec 412 sièges sur 613 ultra-majoritaires. Cette assemblée, surnommée la Chambre bleue Horizon, a une obsession nataliste. Il s'agit de repeupler le pays après l'hécatombe de la Grande Guerre. Pour ces parlementaires, cette mission incombe aux femmes, qui doivent, je cite, « se montrer à la hauteur des sacrifices consentis par les hommes au cours de ce conflit ». Ces députés conservateurs votent alors, en 1920, une loi réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptuelle. Avec la loi de 1920, la femme qui avorte est passible des assises, puisque l'avortement est assimilé à un crime. Il faudra attendre 1956 pour que des voix courageuses commencent à s'élever. Quelques médecins, journalistes et femmes d'origine bourgeoise médiatisent la question des grossesses non désirées. La même année, un groupe de femmes fonde l'association La Maternité Heureuse, préfiguration du planning familial autour de la gynécologue Marie-Andrée Veil-Allé. En plus de fournir aux femmes des moyens d'espacer les naissances en fournissant des diaphragmes importés clandestinement de Suisse, l'association milite aussi pour faire modifier la loi de 1920. Ces actions, bien sûr, connaissent des réticences. De la part de l'Église catholique, bien entendu, qui condamne fortement, de la part aussi de l'Académie des sciences. Mais, ce qui est plus étonnant, de la part des communistes. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, déclarera « Depuis quand des femmes travailleuses réclameraient-elles le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie ?» C'est seulement en 1966 qu'une chanson, intitulée tout simplement « La loi de 1920 », la dénoncera. Elle viendra d'Antoine, alors chanteur débutant, influencé par les protestes song américaines et le mouvement hippie.
Elle habite avec ses 9 enfants. 2 pièces n'est pas même un appartement. de Marion ne le voit pas souvent. Et pourtant, on leur a appris à fonder une famille. Faire autrement leur serait difficile. Au mariage, c'était le seul but dans la vie. Et pourtant, chaque année, un autre enfant naissait. Comment aurait-il pu l'éviter? Il y a 365 nuits dans une année. Et pourtant, l'aîné aura peut-être quelques instructions. Pour les autres, il n'en est pas question. Manger, ça ne leur arrive pas souvent. Et pourtant, il y a longtemps que leur taudis est glacé. Assise folle, elle s'est mise à penser. Elle n'en peut plus, ça ne peut plus durer. Et pourtant, dans un coin, il y a un fourneau. L'évier est mort, on leur a coupé l'eau. Elle s'approche du feu, la folie sur la peau. Et pourtant, il suffit de tourner un robinet. Sa main tremble, les enfants dorment à côté. Ils ne se sont plus jamais réveillés. Et pourtant, on aurait dû penser, pourtant, on aurait pu penser, pourtant, penser à revoir, enfin, la loi de 1920, la loi de 1920, la loi de 1920.
Il faudra attendre 1967 et la loi Neuwirth pour que la situation évolue un peu. Cette loi abroge en partie la loi de 1920 et met en place une législation concernant la fabrication et l'importation de moyens de contraception, dont la pilule. Mais la vente est exclusive en pharmacie et sur ordonnance médicale, et avec autorisation parentale pour les mineurs. Je vous rappelle qu'à cette date, la majorité est à 21 ans. C'est Luc Dominique, ex-sœur Sourire, qui a quitté les ordres et sa congrégation quelque temps auparavant, qui va saluer cette avancée avec sa chanson « La pilule d'or ».
Quand nos grands-mères se mettaient en ménage, on leur disait « Ma fille, sois bien sage, sois soumise à ton mari, mets au monde une grande famille. Les enfants que Dieu t'envoie, accueille-les dans la joie. » Passer par là, la biologie a fait un nouveau pas. Seigneur, je rends grâce à toi. Il est dépassé le triste enfantillage, car l'humanité toujours grandit en âge. La pilule, c'est épatant, même si elle a de tranchants. Elle souligne la victoire des amoureux sur l'histoire. La pilule d'or est passée par là. La biologie a fait un nouveau pas. Seigneur, je rends grâce à toi. On a compris que la progéniture doit être fruit d'amour et non d'aventure. Et que dans la vie en commun, l'essentiel c'est d'être un, de bâtir son unité avant que d'emprunter. La pilule d'or est passée par là, la biologie a fait un nouveau pas. Seigneur, je rends grâce à toi. Face au problème de la démographie, des nations surpeuplées, des affamés d'Asie, la pilule peut enfin lutter contre le destin. J'en comblais, j'en saturais, puisse-t-elle nous inquiéter? La pilule d'or est passée par là, la biologie a fait un nouveau pas. Seigneur, je rends grâce à toi. Apothicaire, ne criez pas victoire, et vous ne dites pas bravo, faisons la foire. Le problème contraception attend notre réflexion. Ni tabou, ni parti pris, mais l'amour premier servi. La pilule d'or est passée par là. La biologie a fait un nouveau pas. Éclaire la foi, puisse l'humanité grandir dans la joie. Seigneur, que l'amour soit roi. Seigneur, que l'amour soit roi.
Mais revenons aux années 20. Ou comme le dit Véronique Pestel, toujours dans sa chanson que nous avons écoutée, les années 20 lui font l'humour d'une insolence à cheveux courts. L'insolence, c'est l'apparition de la garçonne. Le mot s'impose en 1922 avec le roman de Victoire Marguerite, La garçonne, qui fit scandale à l'époque en mettant en scène une jeune femme indépendante menant une vie sexuelle très libre. Mais plus qu'une mode, c'est un mouvement qui marque le début de l'émancipation des femmes et la revendication pour l'égalité des sexes. Le style androgyne de cette mode, avec des robes droites qui raccourcissent et qui osent dévoiler les mollets, et des cheveux coupés courts, marque le rejet des parures du XIXe siècle, robes corsetées et cheveux obligatoirement longs, imposés par la morale de la société patriarcale. Les femmes marquent ainsi leur volonté d'émancipation. Leur rôle pendant les années de guerre n'est certainement pas étranger, mais le combat sera long et dur. Une chanson de 1924, elle s'était fait couper les cheveux, marque la réaction et l'étonnement et peut-être aussi l'inquiétude de la gente masculine.
L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu mon chéri, pour te plaire, j'ai fait quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le mouvement. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux, comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux, en 6 ans, ça nous a beaucoup mieux, car les femmes sont comme les messieurs, pour suivre la mode, commode. Elle se prend toute couper les cheveux. Curieux de ce pas, je vais trouver belle maman, une dame qui se promène entre 16 et 40 ans. Ma belle-mère, en me voyant, me dit d'un air doux, regardez ce que j'ai fait pour vous. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux, comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux, en 6 ans, ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes sont comme les messieurs, pour suivre la mode, commode. Elle se prend toute couper les cheveux. Que va dire grand-mère, elle est pleine de distinction. Allons la trouver, va voir son indignation. La bonne vieille dit, je vous réserve justement une bonne surprise, mes enfants. Elle enleva
mon petit chapeau. Qu'est-ce qui s'est fait? Je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux. Comme une petite fille, gentille, elle s'était fait couper les cheveux. En 6 ans, ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes, tout comme les messieurs, pour suivre la mode, commode, elles se font toutes, elles se font toutes. Elles se font toutes couper les cheveux, près de 7 ans.
De cette époque, le charleston reste la danse symbole de liberté. Cette danse est arrivée en France en 1925 avec la Revue Nègre et Joséphine Baker. C'est une danse de délurés où les filles aux cheveux courts et en jupe courte dansent libre, sans besoin de cavalier pour les guider. Et tout ça sur une musique de jazz. Davia, une chanteuse d'opérette, va s'en amuser dans un petit bout de femme qui danse le charleston, enregistré en 1927. Malgré cela, les préjugés ne bougent pas, bien au contraire. Témoin cette édifiante chanson de 1928 de Georgel, « Ce que femme veut ».
La femme dissimule le bon, le mauvais, et tout comme une mule, ne fait que ce qui lui plaît. Elle cache avec malice dans son petit cerveau la folie d'un caprice, le désir d'un cadeau. La mienne ne me sourit jamais que 2 fois par an. Mais c'est le jour de sa fête et le jour de l'an. Quand une femme veut vous prendre, il n'y a pas moyen de se défendre. Que ce soit un collier de perles ou un manteau de bison, c'est toujours une occasion de fin de saison. Pour ne pas rater une affaire, naturellement on se laisse faire, car on ne résiste jamais à ses discours. Oui, ce que femme veut, la femme l'a toujours. Plus que l'automobile, le rêve féminin. Gros sujet de Sabine, c'est la salle de bain. Car vivre sans hygiène, dit-elle, c'est honteux. Dans une maison ancienne, c'est bon pour les miteux. Vous partez en voyage en lui disant, je crois bien qu'une bonne série de douches te ferait sûrement plus de bien. Mais quand une femme veut vous prendre, il n'y a pas moyen de se défendre. Car lorsque vous rentrez, qu'elle le transformation. Au lieu de votre bureau, vous voyez sacré nom. Une baignoire en marbre antique et un canasson hydraulique en mosaïque et paraît-il au goût du jour. Oui, ce que femme veut, la femme l'a toujours. L'homme, ce pauvre esclave, travaille beaucoup trop. Et ce qui est plus grave, n'a jamais de repos. Il rentre chez lui et dîne, éreinté, abruti. Le repas se termine, il court vite à son lit. Il n'y est installé que depuis un moment. Qu'il s'aperçoit déjà que le diable est dedans. Quand une femme veut vous prendre, il n'y a pas moyen de se défendre. Comme une chatte à coups de patte près de vous, elle vous griffe, vous énerve, vous rend fou. Avec effort on se redresse, on commence la course aux caresses. Mais à peine arrivée, elle crie encore un tour. Oui, ce que femme veut, la femme l'a toujours.
En 1930, Berthe Silva va en remettre une couche avec Les yeux des femmes.
On a chanté les yeux des femmes, leur charme et leur divin pouvoir, disant qu'ils étaient de leur âme le plus fidèle des miroirs. Mais la femme n'y laisse lire que ce qu'elle veut et souvent, qui sait ce que cache au sourire ou son regard le plus troublant. Qu'il soit noir ou bien qu'il soit bleu, calmeuse ou plein de flammes, ne vous y fiez pas, messieurs, car les yeux d'une femme vous mentent en cachant aux plus amoureux le secret de leur âme. Qu'il soit noir, qu'il soit bleu, de la femme les yeux savent mentir quand elle veut. Il est pourtant, je le proclame, un cas où très certainement ne mentent plus les yeux des femmes, c'est quand elles aiment vraiment. Alors c'est la vérité même qui illumine leur regard, en murmurant l'aveu suprême qu'elles ne peuvent cacher. Car qu'il soit noir ou bien qu'il soit bleu, calmeuse ou plein de flammes, vous pouvez vous y fier, messieurs. Lorsqu'elle aime vraiment, la femme s'est montrée au plus amoureux le secret de son âme. Qu'il soit noir, qu'il soit bleu, de la femme les yeux disent alors ce qu'elle veut.
Mais n'oublions pas que le rôle essentiel des femmes est de faire des enfants. Dans le cadre de cette politique nataliste, en 1926, le gouvernement officialise une journée des mères, appelée aussi journée des mères de familles nombreuses. La première cérémonie officielle sera marquée par la remise solennelle des médailles de la famille française accordées aux mères de familles nombreuses afin de leur témoigner toute la reconnaissance de la patrie. En 1942, Pétain renforcera cette célébration en lui donnant un ton encore plus solennel. Des chansons romantico-pleurnichardes vont alors voir le jour pour bien enfoncer le clou. La plus significative d'entre elles est certainement celle composée par Jean-Marie Barbeau et Charles Hummel, « C'est ta fête, maman », et que l'on fera chanter par une enfant prénommée Marie-France.
Depuis un an j'y pense, pendant quatre saisons, j'ai rêvé de ce jour. Je voudrais aujourd'hui que ta joie soit immense, toi qui m'as tant donné de tendresse et d'amour. C'est ta fête, maman. Ce jour-là sur la terre, le bon Dieu distribue un ange par maison. C'est pour nous rappeler que le cœur d'une mère est le plus sûr asile pour trouver le pardon. C'est ta fête, maman, pour dire combien je t'aime. Les mots sont trop petits, les millions sont valants. J'ai cassé ma théorie et suis allée moi-même acheter pour ta fête un grand bouquet de fleurs. C'est ta fête, maman. N'a rien des autres, si les grands retrouvaient vraiment un cœur d'enfant, et si nous voulions tous et mettre un peu du nôtre, ce serait tous les jours la fête des morts.
Dans un autre registre, la chanson réaliste, qui est l'expression de la rue, des bas quartiers et de la zone, domaine des voyous et des macs, nous parle, elle, de ces femmes qui restent victimes, soumises et souvent exploitées. L'homme y reste le mâle, violent et dominateur, mais adoré. La chanson de Fréhel, c'est un mac, est une des plus représentatives de cet état d'esprit et de cette condition.
Y'a des tas de gonzesses qui font les bigueules, aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'âme seule, elles ont trop peur d'avaler la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chicandière, j'ai mon vrai de vrai, un homme affranchi. On n'a pas besoin de faire des manières, on s'a dans la peau et ça nous suffit. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut. Il m'arrive parfois quelques aventures, j'ai connu des hommes dans tous les milieux. Je suis un peu curieuse de nature, mais c'est encore lui, lui que j'aime le mieux. Il n'est pas rasé, tout son poil m'arrache, et quand il m'embrasse, il sent le tabac. Mais il me fait des tas de machines qui attachent, et je suis pâmée quand je suis dans ses bras. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre des sous, il peut me filer des coups, tant que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut. Quand mon homme emballe une poule du grand monde, s'il a du pétard avec le bourgeois, pour tirer son couteau de sa profonde. C'est lui, c'est le premier, lui qui a la loi. Il a l'estomac avec un tatouage. Sous tatouage, un point d'interrogation. Ça lui permettra, car il est volage, de faire lui aussi un peu d'aviation. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton. Lui, c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa cicatrice étalée sur son tympane. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups sans que je râle. Il a de gros biscottos, c'est bien lui le roi des barbeaux, mais c'est le mal qu'il me faut.
Bien sûr, la prostitution y est monnaie courante. Là encore, les titres ne manquent pas. Fréhel, encore elle, chante « Les filles qui la nuit ». Damia interprète « En maison ». C'est elle que nous allons écouter.
À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré que le travail fut rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons. Sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis parti en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon en maison. Où qu'on aille, c'est partout du même. Les hommes veulent qu'on leur dise je t'aime. Qu'ils soient fauchés ou pleins de pognon, brun ou blond, brun ou blond. Il y en a certains qui ont une drôle d'idée. L'un d'entre eux, un soir de bordée, m'a dit, que fais-tu là, voyons, viens, partons. Oublie un peu ces lieux infâmes, tu seras choyée, tu seras ma femme. Je t'offre mon amour profond, ma maison, sa maison. Comme il avait une voix tendre, je l'ai suivi sans trop comprendre. Et bientôt j'ai eu pour de bon un salon. J'ai eu des bijoux, des toilettes, des tas de gens me faisaient des courbettes. Quand je passais, dressant le front, quel aplomb, quel aplomb. Puis, une étrange amertume en mon cœur a jeté la brume. Je regrettais mes accordéons, leurs chansons. Je regrettais les heures disparues, tant et si bien que je suis revenue un soir de la belle saison en maison. En maison.
Dans ces chansons, les femmes soumises se vendent par amour pour cet homme supérieur et souvent violent, comme dans cette chanson de Berthe Silva, C'est mon gigolo.
Parnasse, j'exerce mon industrie. Je suis modèle, faut bien gagner sa vie. Montrer son corps, ça ne veut pas dire qu'on le donne. Jusqu'à présent, il n'était à personne. Mais le printemps grise, à mon tour je fus prise. Et cette fois, je connus les plus doux et moi. Ce n'est qu'un homme, dites-vous, mais je l'aime alors, ça change tout. C'est mon gigolo, ce petit gars palo, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. Les rêves passent, c'est pour ça que c'est des rêves. Il est parti, notre idylle fut trop brève. J'ai voulu me tuer, et puis folle de l'outrage, sur l'infidèle, j'allais passer ma rage. Dans ma détresse, j'ai retrouvé ses caresses, et j'ai pensé, je ne pourrais plus m'en passer, qu'il me revienne seulement. Je le reprendrai disant simplement, c'est mon gigolo, ce petit gars pâle, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau, qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo.
Le gigolo est un euphémisme récurrent, pour ne pas dire marque, souteneur ou proxénète. Damia emploie le même terme dans sa chanson « C'est mon gigolo ».
Gigolo qui séduit toutes les femmes, tu sais si bien comment il faut les charmer. Entre tes bras frissonnantes, elles se pâment, et cependant tu ne sais pas les aimer. Quand tu leur fais des aveux câlins et tendres, comme un amant dont le cœur serait épris, c'est pour te vendre à celle qui mettra le meilleur prix. C'est mon gigolo, charmant gigolo, trop joli pour être honnête. Ton amour est faux, mais tu es si beau, élégante marionnette. Ton regard vainqueur fait battre les cœurs et fait chavirer les têtes. Tu sais bien enlacer, mais tu es intéressé. On te paie, tu fais danser. Quand j'ai subi l'attirance irrésistible, l'exquis attrait de tes grands yeux de velours, bien follement j'ai fait le rêve impossible de te garder à moi toujours, toujours. Moi je n'avais que mes baisers pour richesse, et des baisers pour toi ce n'est pas beaucoup, mais ma tendresse n'est rien auprès de l'argent des bijoux. C'est mon gigolo, charmant gigolo, trop joli pour être honnête. Ton amour est faux, mais tu es si beau, élégante marionnette. Ton regard vainqueur fait battre les cœurs et fait chavirer les têtes. Tu sais bien enlacer, mais tu es intéressé. On te paie, il faut danser.
cet état catastrophique des lieux ne serait pas complet si l'on oublie les chansons colonialistes, qui vont mêler machisme et racisme. Elles représenteront le summum du mépris et de la vulgarité. Ici, les femmes y sont ridiculisées, mises plus bas que terre et soumises au plaisir de l'homme blanc. Les titres de ces chansons, qui souvent se veulent drôles, sont évocateurs. On peut citer « La fille du Bédouin »,« Elle était cannibale » ou encore « Viens dans ma casbah ». J'ai hésité avant d'en passer une, mais finalement je n'ai pu me résoudre à donner une audience à cette imbécilité et à cette vulgarité. Je préférais vous faire écouter une chanson moins crash, « Rikita, jolie fleur de Java », sortie en 1926, mais qui est tout de même représentative de ce que peut être l'état d'esprit vis-à-vis de ces lascives femmes exotiques. C'est Lina Bargi, dans une interprétation des années 50 que nous allons entendre. Cette chanson, reprise par Georgette Plana, connaîtra un succès jusque dans les années 70. C'est dire si ses idées ont la vie dure.
À Java, il était né une poupée. Une poupée si jolie qu'on lui dit. Un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit, viens donc à Paris, ma jolie. Les plaisirs et les désirs te feront reine ou démon. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens te donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, jolie rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Étranger, toi qui m'as dit qu'à Paris je trouverai le bonheur, moi j'en meurs. J'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays. Ah, ce qu'ils m'ont fait souffrir, au plaisir. Laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit, un ange blond m'a chanté votre chanson. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelles, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours.
Et pour terminer, je vous propose Louise, une chanson de Gérard Berliner de 1982, mais qui nous ramène aux années 14-18 et qui raconte l'histoire d'une femme de chambre de l'Allier qui tombe amoureuse d'un ouvrier. Celui-ci va mourir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, alors que la jeune femme est enceinte. Ne pouvant garder seule cet enfant, elle décide d'avorter. Elle subira le poids de la religion et le reproche de la morale bourgeoise. Cette chanson nous décrit parfaitement l'ambiance qu'il pouvait exister au lendemain de la guerre de 14-18. Et j'en veux pour témoin le roman de Raymond Radiguet, Le Diable au corps. Le succès de cette chanson mettra dans l'ombre le reste de la production de Gérard Berliner, et c'est bien dommage, parce qu'il enregistrera par la suite deux superbes albums, l'un consacré à Victor Hugo, et l'autre en hommage à Serge Reggiani. On écoute Louise.
Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, faire une écharpe de laine. Le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercé dedans son lit, qui l'a traité comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le
mortel, le froid dont souffrait Louise. C'est le bon Dieu qui le souffrait.
Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promenait. Et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait, le regard bleu sur Louise. C'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis, vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. Les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'efface ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier, on n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie et Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mardi 21 mars à 11h pour En français dans le texte et le lundi 10 avril pour un nouvel épisode de Ça peut se dire en chanson. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions comme toutes celles de Radio Saint-Fé en vous rendant sur notre site radiosaintfé.com. À bientôt.
Vous avez écouté « Ça peut se dire en chanson ».